Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, troisième conversation de notre semaine consacrée aux pirates avec Rodolphe Durand, professeur à HEC, émission qui portera sur le capitalisme prédateur. Nous avons terminé notre conversation d'hier sur l'importance de la figure du pirate dans la naissance du protestantisme. Et Olivier Abel nous expliquait que l'éthique de la prise pouvait justifier aussi bien une attitude frugale, communautaire, voire communiste, que le désir d'accumulation frénétique du capitaliste. C'est cette dernière posture que nous allons explorer ce soir. N'y a-t-il pas un fond pirate dans le capitalisme? Et nous allons le faire avec Rodolphe Durand, qui est professeur à HEC, mais qui a publié un livre avec Jean-Philippe Vergne, « L'organisation pirate, essai sur l'évolution du capitalisme ». Et puis ensuite, il a publié un autre livre tout seul, « La désorganisation du monde ». On verra si c'est la suite ou pas. Bonsoir, Rodolphe Durand.
Bonsoir, Antoine Garapon.
Alors, pour moi, le capitalisme, c'est le jeu du commerce dans les règles. Pourquoi utiliser cette métaphore du pirate?
Alors, la métaphore du pirate est très intéressante eu égard à ce qu'on considère d'habitude comme étant le capitalisme et les entreprises. Lorsqu'on pense l'innovation, les entrepreneurs, on les voit à l'intérieur d'un territoire bien donné. Et ils innovent, leurs produits trouvent leurs clients et ils apportent une réussite à leur voilà, la réussite capitaliste.
Et une plus-value en apportant, en enrichissant le monde par cette découverte et puis aussi par l'argent qu'ils en
Exactement.
Tirent.
Ce qu'on ne voit pas ou qu'on a peu vu jusqu'ici, et c'est la thématique de ce livre, c'est de dire que finalement, entre l'entrepreneur et entre l'État, il y a peut-être une partie tierce qui vient contrecarrer la volonté de ces entrepreneurs et de cet État. C'est ce qu'on nous on appelle l'organisation pirate.
Alors, mais c'est paradoxal parce que le pirate, c'est une personne. Le pirate, c'est un individu. Alors, on peut comprendre que l'entrepreneur soit comme un pirate, le savant, celui qui découvre, l'inventeur est aux aguets pour occuper un créneau. Mais là, c'est l'organisation elle-même.
Absolument. Donc là, il y a deux mots. Hein. Il y a l'organisation et le pirate. Je parle d'abord du pirate en tant que tel. Peut-être on verra ensuite l'organisation. Dans cette histoire-là qu'on vient de raconter, entre l'État, d'un côté, nous, qu'on appelle le souverain, puisqu'on va répéter un motif qui est historique au cours du temps. Donc on a le souverain, c'est-à-dire à l'époque des royaumes et puis aujourd'hui des États. Donc on a cet État qui définit les règles du commerce, les règles du profit légal, et puis on a les entreprises qui, elles, innovent, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que, eh bien, il y a plein d'occasions pour lesquelles, en fait, les entrepreneurs ne sont pas si différents de l'État et que la partie tierce qui vient s'intercaler entre les deux, c'est l'organisation pirate. Je vous donne un exemple. Quand, par exemple, à l'époque, l'Espagne, le Royaume d'Espagne, va exploiter les ressources en Amérique latine et en Amérique centrale, les ressources naturelles, les pirates vont attaquer les galions et autres bateaux espagnols et contredire la volonté de l'État qui dit « la route maritime qui me permet d'envoyer mes galions jusqu'en Amérique centrale et de rapatrier l'or ou l'argent, enfin, finalement, m'appartient ». Eux, ce qu'ils disent, non. Ils disent non, il n'y a pas de route maritime qui appartient à quiconque. L'eau appartient à tout le monde et nous, volant des voleurs, puisque vous êtes approprié des ressources qui ne vous appartenaient pas non plus, finalement, on ne vole personne et nous, on se réapproprie des ressources que vous avez prises.
Donc il y a un côté cynique, ce que disait d'ailleurs Olivier Abel hier, en disant le pirate commence par piller les pilleurs. Il légitime son pillage par le fait que finalement, ces bateaux espagnols ou portugais ont eux-mêmes pillé les ressources d'un autre peuple.
Exactement. Je pense que le mot très important que vous venez de mentionner, c'est le mot légitime. Le profit est légal dans le capitalisme, d'accord? Qui détermine la légalité de ce profit? Ça peut être un parlement, un souverain. En quelque sorte, le souverain, l'État. Les organisations, et là on va peut-être bouger tout doucement vers pourquoi on appelle ça l'organisation. Les organisations qui exploitent ces territoires, donc là, on a parlé des routes maritimes, on pourrait parler de la radio, hein, les radios,
ondes.
Les ondes, voilà. C'est un État qui alloue la possibilité à des organisations et qui sont souvent, et la plupart du temps, les galions, ils sont liés au royaume. La BBC, elle est liée au royaume anglais. Voilà, l'ORTF était aussi une sorte de monopole. Et donc, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que finalement, quand on commence à regarder cette évolution capitaliste et ces nouveaux territoires qui s'ouvrent, eh bien, à chaque fois, c'est étonnant, mais on voit bien qu'il y a une mainmise de l'État pour déterminer des territoires sur lesquels des organisations vont pouvoir exploiter les ressources. Donc, c'est la Compagnie des Indes Orientales, c'est les Galions dont je viens de parler, c'est la BBC. Et qui est-ce qui va venir contrecarrer en posant la question de la légitimité de cette exploitation de ces ressources nouvelles? Ben, c'est nous, ce qu'on appelle l'organisation pirate.
Donc, l'organisation pirate serait constituée des entreprises qui viennent sans cesse contester un monopole. Mais on pourrait aussi dire, dans les exemples que vous prenez, d'ailleurs, sont très intéressants, vous parlez de la BBC. La BBC, c'est les ondes. La BBC, c'est un espace immatériel et par certains côtés uniforme, donc qui permet de se glisser, de s'immiscer dedans.
Alors, ce qui est intéressant avec les ondes, c'est peut-être un espace uniforme, mais c'est aussi un espace qui repose sur une définition territoriale. Donc, du coup, les pirates allaient sur des plateformes maritimes qui étaient dans les eaux internationales. Donc, on a bien une contestation de ce qui est finalement le légal par rapport à ce qui est légitime. Est-ce que c'est pas légitime de diffuser du rock'n'roll dans les débuts des années 60, alors que la BBC est réfractaire à ce genre de choses? Est-ce que c'est pas légitime de contester le droit d'appropriation de certains États des ressources naturelles sur la Lune, lorsqu'on va retourner y exploiter ces ressources naturelles? Et donc, là, c'est la même chose. On va dire, est-ce qu'il peut pas y avoir des entreprises, donc des entreprises cette fois sans connotation capitaliste, des organisations, c'est-à-dire des groupements humains qui vont chercher à dire, non, là, ici, l'État abuse de son pouvoir, et ce qu'on appelle nous les entreprises ou les entrepreneurs, finalement, ont partie liée et cherchent à exploiter, au-delà de ce qui est légitime,
les
ressources qui sont mises à disposition.
Ce que vous décrivez, Rodolphe Durand, ce n'est rien d'autre que le dynamisme du capitalisme, c'est-à-dire qu'il cesse d'ouvrir de nouveaux territoires, de s'imposer dans les rapports entre le souverain et ses concessions, ses entreprises d'État, pour écarter et non seulement proposer d'autres services ou d'autres produits, mais aussi créer d'autres espaces. Il y a un espace capitaliste qui finit par s'imposer, y compris aux États.
Alors voilà, donc je travaille dans une école de commerce, dans une business school, et quand on raconte l'histoire effectivement des succès d'entreprise, on va partir d'entreprise avec un entrepreneur qui a une bonne idée, qui trouve son client, ses clients, sa clientèle, qui grossit grâce au moteur à accumulation du capitalisme que certains peuvent critiquer, mais enfin il va grossir et pouvoir continuer à innover, prendre des parts de marché, voilà. Nous, ce qu'on dit dans ce livre-là, c'est que cette dynamique-là est pas tout à fait correct,
c'est pas ça, tout à fait réel. C'est pas une histoire sainte.
C'est un peu plus compliqué, et oui. Qu'il y a le rapport du profit légal et du profit légitime ou de la légitimité. Pour prendre un exemple dans l'industrie musicale, lorsque Napster commence à créer le peer-to-peer, donc le pair à pair, les échanges de fichiers MP3 pour qu'on puisse partager de la musique, il se fait taper dessus à bras raccourcis, il doit faire faillite, mais finalement cette organisation qui était pirate, puisqu'elle disait les profits des majors sont complètement indus, ce que je fais moi est légitime, c'est que un individu possède certains tunes, certaines musiques, et bien il peut les partager avec d'autres sans passer par les majors. Il se fait effectivement fermer pour violation du droit de propriété, du droit d'auteur, etc. Mais Steve Jobs voit l'innovation et va créer à l'époque iTunes avec l'iPhone et puis tout le système pour pouvoir avoir accès à cette musique-là. Donc ça va créer un nouveau business model, mais qui cette fois va être, lui, je dirais, non seulement légitime, mais plus légal.
Plus légal. Voilà. Oui, donc, mais alors, ça veut dire que les pilleurs, les galions qui ramenaient de l'argent, aujourd'hui, il est constitué par les rentes. Tous ceux qui détiennent une rente et qui veulent les protéger. Je cite Hayek, là, quasiment dans le texte. C'est-à-dire que la tendance de chacun qui a installé son entreprise et qui a une source de profit a tendance à convertir son profit en rente et d'empêcher les autres de venir chasser, pirater son système.
Sauf que lorsque vous accumulez trop de rentes, votre rente devient illégitime et que vous, donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir des organisations pirates qui vont chercher à contrecarrer. Donc, on peut regarder là les cyberpirates qui vont attaquer Sony, qui vont attaquer d'autres entreprises de ce type-là, qui vont chercher à contester. La légitimité des profits qui sont faits.
Alors, à vous comprendre.
Ce qu'il faut garder en tête aussi, si je puis me permettre, Antoine Garapon, c'est que le motif qui se répète au cours du temps vient pour la plupart du temps sur des territoires qui sont gris, c'est-à-dire qui ne sont pas très facilement déterminés au moment où, justement, les États envoient leurs galions, gardent les monopoles sur...
C'est des espaces libres et sauvages, c'est la mer.
Exactement. Et donc, du coup, les demandes qui peuvent se faire jour autour de ces espaces-là sur comment les exploiter, eh bien, laissent la possibilité à des organisations qui sont fragmentaires, qui sont en réseau, rhizomiques, diraient certains, enfin voilà, donc qui sont moins structurées, évidemment, que les entreprises bien établies, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit plus classique.
Ça veut dire que ce que vous décrivez, le pirate est un moment, si je vous entends bien, Rodolphe Durand, est un moment d'un cycle qui n'est pas un cycle économique, qui est un cycle beaucoup plus profond, c'est-à-dire découverte d'un espace ou découverte tout court d'une technique, constitution, exploitation, constitution d'une rente, et donc une sorte de nécrose économique à la fin et qui va être déstabilisée par des pirates et qui relance le cycle de la création. Créativité et de la production d'un monde.
Exactement. La dynamique que là on décrit, c'est effectivement la dynamique de la contestation. Donc on dit que l'organisation pirate, elle a une cause. Par exemple, je vous en donne une. Vous savez peut-être qu'il y a tout le mouvement du do it yourself bio. La cause, c'est de dire toute la connaissance autour du génome et de l'ADN ne doit pas échapper à chacun des individus. Donc faisons-le nous-mêmes. Pourquoi est-ce que des entreprises pourraient avoir finalement, et exploiter ses rentes. Donc, où est le légal, où est le légitime? Alors, donc, la bonne dynamique, nous disons, dans ce livre, c'est celle entre le légitime et le légal. Alors, et l'État arrive souvent dans un second tour, pour codifier, normaliser, finalement, et redire ce qu'est le profit légal par rapport au profit légitime.
Alors, Rodolphe Durand, là aussi, vous racontez un peu une histoire, pas une histoire sainte, mais une histoire idéale, parce que vous parlez dans votre livre beaucoup de biopiraterie. Vous dites, il n'y a pas uniquement la piraterie des entreprises qui vont se glisser et puis piquer des rentes illégales, illégitimes pour relancer le cycle de la découverte. Est-ce que ça vous inquiète pas en termes de génome humain, de savoir ce qui se passe aujourd'hui l'entreprise américaine qui met à disposition du matériau génomique sans aucun contrôle? L'État, il a quand même la responsabilité de l'ordre public. L'État, il est là pour stabiliser. Alors là, on est vraiment dans un concept spatial, dans un concept territorialisé, pour asseoir, pour calmer cette innovation qui, mise entre toutes les mains, peut parfois déboucher sur des choses inquiétantes.
Absolument, mais c'est le rôle du souverain, aider à la découverte de ces territoires un peu gris, parce que là, ce dont on parle souvent a été financé par des fonds publics aussi, des laboratoires privés, des laboratoires publics, donc l'État y a contribué d'une certaine façon, si on parle du génome. Cet espace-là est effectivement exploité. Certains vont vouloir breveter le vivant. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis au début des années 2010, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut breveter, qu'est-ce qu'on ne peut pas breveter? Où est le profit légitime, où est le profit illégitime? Et des pirates vont dire non, ne laissons pas l'exploitation à certaines entreprises, l'exploitation des données, par exemple, génomiques individuelles. Donnons la possibilité à chacun d'avoir accès à ces données, de les traiter soi-même. Voilà. Et donc, l'État va revenir en second tour et codifier, normaliser, etc. Moi, je n'ai pas peur. Enfin, par rapport à
votre question. Vous n'avez pas peur. Moi, je suis parfois un peu inquiet. Avant qu'on parle de mes inquiétudes, Rodolphe Durand, parlons un peu de la finance. Parce que la finance, elle a quelque chose d'un peu maritime. On est dans cet univers des sémiotisés, des flux financiers, et dans lesquels, par certains côtés, le financier, il y a une dimension dimension prédatrice. C'est-à-dire, on va trouver par des mécanismes, par des nouveaux algorithmes, à prélever sa dîme sur ces flux. C'est ça aussi, c'est de la piraterie.
Alors, on a voulu faire un chapitre, en fait. Alors, peut-être pas sur les algorithmes ou
mais je parle de la finance,
plutôt. Oui, la finance, mais, parce que, en fait, la finance est un espace où il y a énormément effectivement d'innovation, énormément aussi de régulation, et que donc
qui suit l'innovation en général.
Qui suit l'innovation. Il y a des différents types de catégories d'actifs, de règles applicables à ces actifs, etc. Et donc on a eu l'idée avec Jean-Philippe d'avoir un chapitre justement sur les pirates, les organisations pirates financières. Soit parce qu'elles opèrent, donc plutôt du genre de paradis fiscaux, ce genre de choses, qui opèrent dans des territoires qui sont gris, c'est-à-dire là où
oui,
effectivement la codification n'est pas là.
Qui sont souvent des îles d'ailleurs, hein, c'est intéressant.
Qui sont souvent des îles,
aussi,
bien sûr.
Pirates. Ouais. C'est profondément lié à l'imaginaire pirate.
Absolument.
Des îles.
Ouais.
Des îles comme Robinson Crusoe, les îles dans lesquelles on va pouvoir recréer un monde idéal ou un monde de profit intégral.
Et donc, mais finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout de notre effort. Les personnes qu'on a pu rencontrer, c'est-à-dire que pour nous, l'organisation pirate, elle a une cause. Et la cause, comme je le disais, c'était la cause autour de la légitimité par opposition à ce qui se pratique. Or, la prise, pour reprendre votre terme, des financiers sur les échanges, je dirais qu'elle se motive par elle-même et elle ne fait pas tant contribuer ou ne fait pas tant évoluer justement cette idée du profit légitime par rapport au profit illégitime.
Il n'y a pas tellement de causes en matière financière.
Y a, aujourd'hui, travaillant sur, par exemple, l'investissement socialement responsable, on voit quand même émerger des catégories de produits et des investisseurs qui essaie d'introduire.
Là, vous êtes dans la phase de la régulation, Rodolphe Durand. Vous êtes dans la phase dans laquelle on cherche à refroidir, à moraliser, à imposer ou à proposer un destin social, un retour sur terre, à ramener au port, en quelque sorte, la finance qui, sans ça, deviendrait folle.
Absolument. Mais il faut voir quand même que tous les efforts de ces financiers se heurtent à la doxa de leur monde et que c'est pas facile pour ces investisseurs-là de justifier la façon dont ils travaillent, de trouver les entreprises qui ont un impact social ou écologique positif, de trouver les investisseurs qui sont prêts à prendre le risque parce qu'ils considèrent qu'il y a un risque plus important, ou s'il y a un même risque, il y a un retour sur investissement qui est moins fort. Mais c'est pas, je les qualifierais pas d'organisation pirate, je les qualifierais de courageux avant-gardistes.
Il y a aussi une catégorie d'organisation pirate, quoi. Je sais pas si vous accepterez ce nom, ce sont les ONG.
Oui, alors voilà.
Les ONG aussi, elles cherchent des causes. Alors, indépendamment de tout préfet.
Donc, je crois qu'on cite Wikipédia, par exemple, c'est-à-dire tout ce qui va être autour de la coordination de ressources en vue de pousser la cause pour en justifier la légitimité et faire changer finalement les comportements humains. Toutes ces organisations-là rentreraient dans cette thématique de l'organisation pirate, en se heurtant effectivement à des règles, à des régulations, à un souverain qui serait un petit peu lent ou résistant à les entendre.
Rodolphe Durand, on a connu quoi, votre théorie de l'organisation pirate, qui est une réflexion de nature économique sur les cycles de création de valeur. Elle a rencontré un booster extraordinaire avec la mondialisation. Avec la mondialisation et avec la dématérialisation et avec la déterritorialisation qui caractérise notre univers contemporain. Et c'est peut-être ce qui explique l'explosion des organisations pirates pendant ces 20 dernières années.
Tout à fait d'accord également, encore une fois, avec vous. C'est vrai que là, le motif de l'organisation pirate apparaît de façon encore plus criante aujourd'hui. Mais comme on le retrace, il ne faut pas oublier que pour nous, c'est un motif finalement qui caractérise le capitalisme plutôt occidental, mais pas seulement, depuis le XVIIe siècle.
Il y a un capitalisme qui n'est pas occidental ?
Oui, le capitalisme chinois.
Comment vous le caractérisez?
Là, c'est un capitalisme qui, effectivement, a un alignement très fort entre le souverain et les entreprises. Une autre thématique qui est importante quand on pense à l'organisation pirate, c'est que elle est vouée finalement à disparaître. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ces nouveaux territoires qui apparaissent. Soit l'organisation pirate est complètement anarchique, très avant-gardiste et à tort, et finalement ne peut pas mobiliser les ressources pour suffisantes pour justifier sa légitimité. Et par conséquent, les États ne codifient pas et donc elle disparaît. Elle se fait attaquer, elle disparaît. Soit elle a raison et d'elle-même elle convainc et donc le profit qui était illégitime disparaît et il y a une nouvelle codification. Voilà. Donc, je veux dire, voilà, c'est une organisation qui est vouée à disparaître, soit qu'elle a tort, soit qu'elle a raison.
Oui, Rodolphe Durand.
Le motif que je voulais ajouter, en tout cas, c'était de dire que les pirates, comme on l'a vu pour les pirates maritimes, peuvent se faire corsairiser.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais c'est que les entreprises chinoises sont des corsaires. Ah, elles travaillent toutes pour un même patron qui était à l'image du corsaire du roi, qui venait contrer le travail des pirates. Là, on est en face d'une corsarisation de l'économie.
Et donc, ce que je pourrais dire, c'est que justement, ce capitalisme chinois est donc beaucoup plus centralisé, beaucoup plus étatique. En même temps, d'une certaine façon, utilise tantôt les pirates pour ce qu'ils sont et tantôt, et souvent, les corsairise énormément. On cite l'armée des pirates, des Red Hackers dans le livre où on sait que l'État chinois est capable de mobiliser plusieurs dizaines de milliers de pirates. Là, je parle des cyber-pirates en un instant pour faire des attaques ciblées sur...
C'est très intéressant parce que vous nous expliquez, j'ai appris ça dans votre livre d'ailleurs, que le terme de honker, le terme de honker, qui est la traduction chinoise de hacker. Et le honker signifie littéralement le visiteur noir, comme si la couleur noire était associée aux pirates ou, en l'occurrence, aux honkers, c'est-à-dire aux corsaires informatiques de la Chine.
Voilà, je parle pas mandarin particulièrement, mais effectivement, la couleur noire renvoie évidemment au drapeau.
Vous seriez prêt à dire que la Chine a été pendant quelques années, quelques décennies peut-être, a adopté une attitude un peu pirate, ou du moins se disant « vous nous avez pillés lors des contrats inégaux, et eh bien en termes de propriété intellectuelle, on ne va pas vous payer les droits parce que vous êtes servi en Chine, et bien aujourd'hui on sert chez vous ».
Je suis pas, oui, je pourrais le dire, mais je suis pas, je pourrais dire aussi le contraire.
Así es mi vida, mi vida. Piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú y luego centelleas bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Qui continue cette discussion avec Rodolphe Durand sur le pirate et le capitalisme, sur l'organisation pirate. Alors, on terminait sur la Chine qui vous mettait dans un certain embarras, Rodolphe. Rodolphe Durand, mais vous avez écrit un livre ensuite intitulé « La désorganisation du monde ». Ça veut dire que cette organisation pirate qui continuait de structurer quelque chose de l'économie, aujourd'hui elle est également à la peine.
Alors ce qui est intéressant, je pense, c'est de maintenant se centrer sur le mot « organisation ».
Oui.
En fait, l'organisation pirate, la désorganisation du monde sont deux volumes qui en appellent un troisième, parce que j'ai toujours pensé que je ferais un triptyque.
Que nous attendons.
Organisation, ça veut dire quoi? Je pense que l'élément organisation est quelque chose qui manque beaucoup à la pensée de la sociologie française, l'étude des sociétés, et qu'on se retrouve constamment bloqué entre une vision du marché, d'une part, des masses, d'autre part, et que donc il manque un élément intermédiaire entre deux, qui est l'organisation. Donc l'organisation pirate était, d'une certaine façon, un motif historique qui permettait de comprendre comment l'évolution capitaliste se déroulait. La désorganisation du monde rapproche finalement l'identité de chacun à ses appartenances à de multiples organisations. La grande différence sociologique qu'on peut observer entre, je ne sais pas, l'après-guerre, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, c'est que, au niveau professionnel, on restait le plus souvent dans une organisation ou dans une institution. On était professeur, on était militaire, etc.
On avait un statut.
On avait un statut qui était associé à ça. Et qu'aujourd'hui, l'accélération de la création et de la disparition des entreprises, donc des produits associés, l'obsolescence de ces produits, les innovations, qu'elles soient pirates ou pas, font que on a un monde autour de soi qui se disloque parce que les organisations auxquelles on était attaché, je sais pas, la coopérative qui était à côté a disparu parce qu'aujourd'hui on reçoit les produits par Amazon ou ce genre de choses, et donc du coup notre concret finalement tombe un peu en pièces et nous-mêmes notre identité, elle est faite de ces multiples appartenances aux organisations différentes. Donc je peux être professeur et en même temps être membre d'un club de foot, mais lutter contre l'analphabétisme dans une ONG, changer d'employeur plusieurs fois.
Cette multi-appartenance, elle peut avoir du bien, elle stabilise et elle diversifie les affiliations sociales. Mais Rodolphe Durand, je rappelle que vous êtes professeur à HEC, une de nos plus brillantes, si n'est la plus brillante business school, et vous constatez l'évanescence des entreprises, des grandes entreprises dans lesquelles on pouvait faire toute sa carrière et qui provoquaient une affiliation quasi affective à son entreprise. On était Dassault, on était Renault, on était identifié à son entreprise. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est beaucoup plus volatile et donc ça crée une sorte d'égoïsme, de méfiance peut-être même à l'égard de l'entreprise, parce que l'entreprise ne remplit plus son rôle d'organisation structurante un peu paternaliste.
C'est un syndrome qui est assez français et je pense c'est un... Oui, je pense que c'est un impensé assez français. Le livre L'organisation pirate a été traduit en anglais et publié là-bas. Et quand je proposais cet ouvrage aux éditeurs en France, ils me posaient toujours la question, mais l'organisation, qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que vous êtes sociologue? Donc, c'était la catégorie. Est-ce que vous êtes économiste? Il n'y a pas de catégorie en France pour les gens qui travaillent sur les organisations, la compréhension des organisations, alors que c'est un champ immense dans le monde anglo-saxon ou dans d'autres pays. Donc c'est quand même assez révélateur. Et donc le but final, d'une certaine façon, de ce travail sur l'organisation pirate ou sur la désorganisation du monde, c'est de remettre l'organisation, ses multiples appartenances, ses attachements qui effectivement se délitent. Et certaines personnalités vont mieux se développer en passant d'une organisation à une autre, et d'autres vont en souffrir.
Mais il faut que l'organisation joue le jeu pour ça. Il faut qu'elle soit à la hauteur de sa tâche.
Je pense que les réflexions qu'on a dans nos écoles de management, hein, qui tournent autour de la rétention des gens, la compréhension des gens, leur donner des progressions de carrière, leur fournir les moyens de se développer, sont des choses qui permettent à certaines personnes, effectivement, de profiter, au bon sens du terme, de ces organisations-là. Et que la réflexion en termes dominant, dominé, classe sociale, apporte son lot de compréhension, mais ne permet pas d'aller au-delà d'un certain constat.
C'est ça. Oui, mais alors, ça veut dire que l'entreprise a peut-être compris. Il y a eu une bascule ces dernières années, Rodolphe Durand. Il y a eu une bascule parce que la grande entreprise, pour laquelle la salariat était une condition enviable pour tout le monde voulait être salarié parmi les hauts cadres ou parmi la maîtrise ou les ouvriers. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu un désamour avec l'entreprise et notamment de la part des cadres, notamment dans le secteur numérique, par exemple, où on ne conçoit plus sa carrière nécessairement dans une entreprise. Ça, c'est très nouveau.
C'est d'autant plus nouveau. C'est nouveau et deux, c'est renforcé pour les jeunes générations, hein, puisqu'on voit que entre 15 et 20% d'entre elles sont prêtes à partir pour des start-up ou des organisations des entreprises qui n'ont pas pignon sur rue. Donc effectivement, il y a d'un côté relative des affections, mais de l'autre, il y a de toute façon le besoin de se reconstituer, de reconstruire ou de construire son identité autour d'une organisation. Donc, souvent, nous, en sociologie, on sépare ce qu'on appelle l'occupation, la fonction, la carrière en tant que telle. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez estimer que votre occupation, c'est, comptable, et donc par conséquent, vous allez faire comptable dans une entreprise, puis après dans une autre, et voilà, donc la profession est un peu toute tracée, par rapport à la création d'une carrière qui serait de faire des sauts de puce d'organisation en organisation et en changeant de profession au cours du temps. Aujourd'hui, on voit que même s'il y a ce désamour, comme vous le dites, mais du côté des entreprises, il y a une volonté de raccrocher les wagons et d'avoir de plus en plus de personnes. Et quand on les recrute, de les garder, elles en ont besoin. Et les organisations ont besoin et les gens en ont besoin aussi. Donc on voit cette demande et il y a probablement effectivement une dissociation entre les personnes qui sont confortables, c'est un peu un anglicisme, se sentent confortables, sont à l'aise, avec effectivement ces sauts de puce d'organisation en organisation, se construisent leur identité de cette façon-là, et les autres qui, du coup, en souffrent plus. Et c'était l'objet de cet ouvrage, des organisations du
monde.
Parce
que, quand même, cette désorganisation du monde, elle montre aussi, et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, quoi. C'est la question que je vous pose, Rodolphe Durand, à une sorte, quand même, de le capitalisme semble être à bout de souffle. Plus exactement, il montre sa dimension destructrice et extrêmement polarisante dans les sociétés, entre ceux qui s'enrichissent de plus en plus et ceux qui s'appauvrissent avec cette disparition des classes moyennes. C'est quand même une évolution préoccupante.
Alors, cette évolution est effectivement préoccupante. Et par ailleurs, il faut faire attention lorsqu'on parle du capitalisme. Il y a des capitalismes. On voit très bien, ne serait-ce qu'en Europe, que le capitalisme anglais n'est pas le même que celui allemand et qui n'est pas le capitalisme français. Donc il y a plusieurs capitalismes. La tendance générale qui est observée effectivement est préoccupante dans la dissolution des classes moyennes. Donc il y a clairement un problème de répartition de la richesse générée.
Et l'entreprise ne joue plus un rôle d'ascenseur social.
Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je suis en désaccord avec ça. Je pense que si l'entreprise joue ce rôle d'ascenseur social, moi, le problème de l'ascenseur social, je le vois plutôt dans le monde de l'éducation où il y a vraiment ce qu'on appelle les insiders par rapport aux outsiders. Vous pouvez regarder de nombreuses entreprises, que ce soit dans la grande distribution, je ne veux pas donner de nom ici, mais enfin dans la grande distribution, dans la restauration rapide, dans de nombreux secteurs où finalement, faire attention à ne pas caricaturer, où finalement les entreprises cherchent à ressembler le plus possible à leurs clients, elles sont beaucoup plus proches de leurs clients qu'on le pense, elles sont capables de valoriser les aptitudes de chacun et justement de les promouvoir dans d'une certaine façon. Donc
Vous seriez prudent.
Moi, je suis prudent par rapport à ça.
Vous parliez de l'organisation pirate. Là, on verrait plutôt des organisations caméléons. C'est-à-dire que ces organisations, Rodolphe Durand, elles sont obligées, vous disiez, de ressembler à leurs clients. Elles sont obligées de s'adapter à ce monde nouveau. Et peut-être d'ailleurs qu'elles sont beaucoup plus plastiques, beaucoup plus flexibles que les grandes organisations étatiques. Et dans ce sens-là, elles souffriraient moins de la désymbolisation qu'affecte toutes les institutions de l'État et toutes les institutions morale, on pense à l'Église ou à d'autres, et vous pensez que l'entreprise, cette organisation très malléable, continue de remplir ce rôle-là, Rodolphe Durand?
Oui, c'est un peu, oui, effectivement, je pense cela. Je pense que c'est encore une fois un impensé que de considérer, lorsqu'on parle des entreprises, qu'on les voit toutes de la même façon, qu'on les voit toutes comme étant maximisatrices de leurs profits. Quand on parle du capitalisme, on ne voit qu'une sorte de capitalisme. Je pense que ce sont des réductions qui porte préjudice à notre pensée de ce qui se passe actuellement. L'identité des individus est de moins en moins associée à leur classe d'origine et à leur classe sociale, mais de plus en plus à leur mode de consommation, aux produits qu'ils consomment, aux organisations dans lesquelles ils gravitent, autour desquelles ils gravitent ou par lesquelles ils passent, ou à contrario ou à negativo, les organisations auxquelles ils n'ont pas accès, autour desquelles ils ne gravitent pas et par lesquelles ils ne passent pas, qui créent l'exclusion.
C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, Rodolphe Durand? Vous êtes professeur à HEC, donc vous voyez passer des générations d'étudiants, de jeunes étudiants, qui ont des aspirations fortes. Vous dites qu'elles ne se portent pas toutes sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce que vous pensez que, pour filer la métaphore, ils veulent toujours avoir cette attitude de pirate vis-à-vis du monde, de prédateurs, ou est-ce qu'ils n'ont pas une autre attente aujourd'hui?
Non, je pense que j'ai deux choses à dire sur ce sujet. La première, c'est qu'on parle beaucoup des millennials et de la nouvelle génération en leur disant qu'ils sont formidables parce qu'ils ont un côté beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus concret, beaucoup moins conformiste, et qu'ils représentent notre espoir face au monde qui vient, dans lequel, effectivement, ma génération, notre génération, nous conduit progressivement face à des murs et pour lesquels des chocs sociaux pourraient amener à des conséquences très négatives. Donc on leur donne ces qualités. Et moi, mon premier point, c'est de dire qu'il faut faire attention parce que c'est leur donner peut-être beaucoup de responsabilités. Ou d'une autre façon de le dire, c'est de nous défausser de notre propre responsabilité à nous.
Et vous constatez ça, vous en avez peur?
Je trouve que c'est facile pour les gens, encore une fois, qui ont 40 ans et plus, de dire c'est super à leurs enfants en disant toi tu vas pouvoir changer le monde, là nous c'est plus possible. Mais j'aurais tendance à dire non, il faut que les deux se passent, leur donner eux leur chance et que nous prenions nos responsabilités ici et maintenant. Et moi c'est ce que je communique toujours dans mes interventions. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça, de nombreuses études le montrent, c'est qu'effectivement, ils ont ces caractéristiques. Donc, ils ont la volonté. Alors, pour donner des ordres de grandeur, les étudiants typiques d'HEC qui allaient dans le monde du conseil, de la finance, ils y vont toujours, mais dans une moindre mesure. On voit les chiffres qui baissent. On voit beaucoup plus de gens qui vont créer leur propre entreprise.
Leur propre organisation.
Et pas toujours avec le seul but de, je dirais, de créer leur start-up et puis de la revendre tout de suite. Non, il y a beaucoup d'entre eux, environ un quart, qui vont créer des entreprises sociales, c'est-à-dire avec des finalités qui cherchent à être...
Et l'entreprise devient un moyen d'action sociale.
Oui. Donc on a beaucoup d'élèves qui sont avec cet espoir et qui veulent œuvrer dans ce sens-là.
Et dans les ONG aussi,
dans les ONG. Donc le centre de recherche qui s'appelle Société Organisation, qu'on a créé il y a maintenant une dizaine d'années, le programme Social and Sustainable Innovation, donne des étudiants qui sont très travaillent dans les ONG, œuvrent à ce genre de projet.
Donc en fait, il y a plus cette dimension pirate, cette principale vertu de l'entrepreneur Rodolphe Durand, celui qui devait chercher les interstices, créer de la valeur.
J'ai pas dit ça. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à créer les interstices, mais peut-être que les finalités pour lesquelles ils vont le faire vont être un peu différentes.
Plus de soucis du monde.
Oui, plus de soucis du monde. Ça, c'est très frappant.
Alors, vous avez, de manière assez surprenante, je dois dire, d'ailleurs, pour moi, dans votre livre, vous avez souvent utilisé Deleuze et Guattari. Vous avez souvent été cherché dans une pensée du capitalisme un peu extrême, le capitalisme productif, cette vision de Deleuze qui était très négative du capitalisme. Vous y avez trouvé une partie de votre inspiration.
Oui, parce que je trouve que il y a des points qui sont très, effectivement, très frappants et qui est très, je trouve, juste.
Ils ont bien décrit ce qui se passait.
Autour de la, voilà, il y en a, la territorialisation et le code ou le surcode sont des éléments qui, effectivement, traduisent tout à fait l'essence du capitalisme. Et il y a quelque chose qui est complètement erroné. C'est pour ça que Mille Plateaux ou l'Anti-Oedipe sont des livres très importants. Donc, la chose qui est complètement erronée, c'est justement cette vision du capitalisme comme étant une chose et une seule, donc vision essentialiste.
Ça, vous ne vous reconnaissez pas là-dedans.
Pas du tout. Et le deuxième chose qui est très importante dans leur analyse, qui est donc le corps sans organes, donc nous, la petite plaisanterie qu'on fait, c'est pas le corps sans organes peut-être, c'est-à-dire autour de l'argent, mais le corps sans organisation sans doute pas. Et donc du coup, quand vous regardez, je sais pas, le capitalisme coréen, le capitalisme brésilien, le capitalisme mexicain, le capitalisme anglais, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Alors évidemment, vous pouvez d'un revers de main
dire...
Il n'y
a pas cette uniformité qu'envisage...
Non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment cette uniformité. Et là, encore une fois, c'est encore un impensé, c'est-à-dire que voir le capitalisme juste comme prédation ou comme, dans la vision marxiste ou marxienne, juste comme prise, prédation... Oui, mais non. C'est un peu court.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et de laquelle parlent beaucoup Deleuze et Guattari, c'est le désir, des machines désirantes. Et ils disent, et je crois que vous souscrivez à cela, Rodolphe Durand, c'est que le moteur du capitalisme, ça reste le désir, de créer du désir, de produire du désir. Si le capitalisme produit quelque chose, c'est du désir, parce que le désir engendrera de nouveaux besoins. Vous vous retrouvez là-dedans.
Oui, je pense que là, effectivement, c'est un des éléments et donc on voit ça de façon beaucoup plus apparente, par exemple, dans toutes les applications où justement on va travailler autour, on peut le déplorer, des mécanismes cognitifs qui permettent d'inciter les gens à continuer à utiliser les applications. On tourne autour de les études scientifiques qui montrent quand est-ce que les endorphines sont produites, la dopamine et ce genre de choses, pour pouvoir maintenir l'attention des gens le plus longtemps possible sur les applications, sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, il y a un aspect... on peut revenir à une certaine prédation, effectivement, préjudiciable.
Alors, Rodolphe Durand a fait ce voyage à la fois dans les capitalismes avec les jeunes d'aujourd'hui. Quel avenir vous voyez à l'organisation pirate? Est-ce que ça a été un moment du capitalisme ou des capitalismes? Est-ce que ça a été un moment de l'ordre du monde? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un versant plus nostalgique, plus dubitatif, voire plus inquiet?
Non, mais enfin, je pense que si notre analyse est juste, je pense quand on va du coup ouvrir justement, par exemple, on parlait de l'ADN tout à l'heure, la procréation, ce genre de choses, vous allez avoir des organisations pirates qui vont poser les questions de la légitimité, de l'eugénisme. Donc les États vont devoir se positionner là-dessus, sur le côté spatial, le côté de la propriété sur Mars, sur la Lune, l'exploitation. Là, ça sera peut-être plus difficile de créer des vaisseaux pirates, mais vous allez avoir aussi des contestations. Donc la question, les fonds sous-marins vont aussi être contestés avec évidemment le mouvement écologique, les glaciations, la fonte des glaces, l'ouverture de nouvelles routes maritimes. Donc non, je pense que l'organisation pirate a encore de beaux jours devant elle.
Eh ben, merci beaucoup, Rodolphe Durand.
Merci beaucoup, Antoine Garapon.
Matière à penser, Rodolphe Durand, Julien Douminc, Nino Lima, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, je vous donne rendez-vous pour poursuivre cette réflexion sur les pirates d'aujourd'hui avec Benjamin Love-Luc à propos des hackers.